Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une tolérance zéro contre le racisme dans les forces de l'ordre et la fin de la méthode d'interpellation dite de l'étranglement. Ce sont les principales annonces faites hier par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans la foulée des manifestations contre les violences policières. Un mouvement relancé en France par l'affaire George Floyd venu des États-Unis.
Et puis nous irons à Minneapolis d'ailleurs dans ce journal, là où George Floyd a été tué, là où le policier Derek Chauvin a comparu hier pour la première fois pour meurtre.
Plus $1 million de caution demandée pour sa libération. Une audience suivie dans la rue par de nouvelles manifestations. Les avocats noirs, notamment, se sont mobilisés. À la une encore, des milliards d'euros pour soutenir la filière aéronautique. En France, le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan pour cette filière frappée de plein fouet par la crise due au coronavirus. Le secteur emploie 200 000 personnes en France.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour au sujet des industries pétrolières. Sont-elles menacées? C'est ce qu'a dit redouté le patron de Total récemment. Eh bien, on posera la question à Francis Perrin. Il est directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Il reconnaît l'existence de brebis galeuses aux déviances infectes, mais il l'assure, la police n'est pas une institution raciste. En plein regain de manifestations contre les violences policières, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a donc annoncé hier que les policiers et gendarmes n'auraient bientôt plus le droit d'utiliser la méthode d'interpellation dite de prise par le cou ou de l'étranglement. Interdit également de s'appuyer sur la nuque ou le cou d'un interpellé maintenu au sol. C'est une première victoire pour les associations et collectifs qui vont encore manifester ce soir à Paris et en région, pression de la rue et de l'opposition de gauche qui demandait à l'exécutif de réagir. Mais ce n'est finalement pas le chef de l'État qui est monté en première ligne, Pierre Neveu.
Christophe Castaner a assumé hier son statut de premier flic de France en affirmant son autorité. Oui, il y a des policiers racistes, reconnaît le ministre de l'Intérieur, mais l'institution n'est pas raciste. Christophe Castaner prône une tolérance zéro dans la République pour bâtir une police de la confiance. Une police exemplaire. Les mots sont pesés. Chaque soupçon doit mener à une enquête. Chaque faute à une sanction. Dans cet exercice de pédagogie, le ministre fait des annonces. Interdiction de la technique d'étranglement lors des interpellations. Suspension des policiers racistes. Formation continue pour les policiers et gendarmes intervenant sur la voie publique. Mais il ne dit rien sur la méthode contestée du plaquage ventral. Dans ce contexte de défiance, ce message politique est particulièrement difficile à porter pour le locataire de la place Beauvau. Défiance de la jeunesse qui se mobilise massivement dans les rues depuis une semaine. Équilibre difficile à trouver où il faut à la fois apporter des gages de transparence et affirmer un soutien sans faille aux forces de l'ordre. Des policiers et gendarmes fatigués par des semaines de maintien de l'ordre, des gilets jaunes jusqu'à la réforme des retraites. Exercice de pédagogie que prolongera tout à l'heure Édouard Philippe dans un commissariat d'Evry. Évry, l'ancien fief de Manuel Valls.
Et côté syndicat de police, David Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance, dit ne pas voir d'alternative à la technique d'interpellation dite de prise par le cou, de l'étranglement, dans certaines situations dangereuses pour les agents sur le terrain. Une évolution des techniques, oui, est nécessaire, mais il ne faut pas non plus entrer dans une chasse aux sorcières. C'est ce que demande aujourd'hui Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT.
Oui, les techniques de police, elles sont controversées, mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui refuse de se laisser interpeller, il y a toujours un risque. D'abord pour le policier, et ensuite pour le citoyen. Donc il faut trouver des techniques qui permettent d'avoir le moins de danger possible pour les deux. Nous souhaitons que les techniques de police, elles permettent aux policiers d'intervenir sans se mettre en danger et sans mettre en danger nos concitoyens. Donc c'est pour cela qu'il faut évoluer dans nos matériels, évoluer dans nos techniques et permettre aux policiers aussi d'être protégés parce que nous sommes dans une atteinte permanente où les policiers sont victimes de violences, agressés tous les jours par exemple par des mortiers dans des guet-apens. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dans des quartiers où plus personne ne va. Et ce qui est dommageable, c'est qu'on le voit bien, c'est qu'il y a une partie de la population qui a une émotion et qu'on doit l'entendre, mais aussi il y a beaucoup de gens qui veulent profiter de cette situation pour faire venir les émeutes en France. Il y a beaucoup de gens qui ont une haine contre la police et donc les policiers, ils ont aussi besoin de protection, que l'État les protège, qu'ils puissent faire leur métier. Ils sont souvent agressés maintenant chez eux et donc il faut faire attention de ne pas basculer dans une chasse aux sorcières et que les policiers soient finalement les boucs émissaires de politiques qui n'ont pas réussi leur politique de sécurité, leur politique de la ville.
Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure CFDT, il répondait à Florence Turme. Alors que la ville de Houston s'apprête à célébrer aujourd'hui les funérailles de George Floyd, cet afro-américain mort lors de son interpellation par un policier blanc, SOS Racisme appelle à manifester en France pour lui rendre hommage. Exemple ce soir à 18h à Paris, place de la République. Les militants anti-violence policière, eux, veulent continuer à faire entendre leur voix, profitant donc de l'actualité aux États-Unis. Des funérailles au lendemain de la première comparution devant la justice du policier accusé du meurtre de George Floyd. Derek Chauvin est devenu à travers le monde le visage des brutalités policières. Il est apparu hier à Minneapolis dans une tenue orange de prisonnier. Le juge a fixé la caution pour sa libération à 1 250 000 $. Et malgré une vidéo accablante qui a horrifié donc le monde entier, beaucoup craignent que Derek Chauvin ne soit pas condamné à l'image de l'impunité dont bénéficient de nombreux policiers aux États-Unis. Pour empêcher cela et faire pression donc sur la justice, l'association des avocats noirs du Minnesota avait appelé à manifester devant la salle pendant l'audition de l'ex-policier. Le reportage de notre envoyé spécial à Minneapolis, Éric Desalves.
Ils sont venus manifester leur colère pour la première comparution de Derek Chauvin. Une centaine d'avocats sont réunis dans l'entrée du tribunal de Minneapolis à 12h45 quand débute l'audition de l'ex-policier. Tous s'agenouillent dans un silence solennel en direction de la salle d'audience. Parmi eux, Jack, noir et avocat, espère que la mort de George Floyd signera la fin de l'impunité pour la police aux États-Unis. Environ 1000 personnes sont tuées par la police chaque année, mais à peine une cinquantaine de policiers sont condamnés. Les policiers tuent beaucoup de gens, mais ils finissent toujours libres. Comme pour surveiller la justice, la centaine d'avocats gardent genoux à terre dans le tribunal pendant l'audition du tueur de George Floyd. Pendant 8 minutes et 46 secondes, plus précisément, la durée de son agonie dont la vidéo doit absolument tout changer, selon Angie, avocate afro-américaine.
On a tous été témoins d'un meurtre de sang-froid devant une caméra. Combien ont lieu hors caméra? On ne peut pas laisser ce policier s'en sortir, sinon on les laissera tous s'en sortir. On subit ça tout le temps depuis que nos ancêtres ont été kidnappés et réduits en esclavage. Il faut que ça cesse.
Lors de cette audience procédurale, Derek Chauvin est apparu en tenue orange de détenu. Il encourt jusqu'à 40 années de prison.
Éric Desalves, envoyé spécial d'RFI à Minneapolis pour France Culture. La date de la prochaine audience a été fixée au 29 juin. Joe Biden, lui, s'est rendu au Texas pour rencontrer la famille de George Floyd. L'ancien vice-président de Barack Obama et candidat, surtout démocrate à la Maison-Blanche, estime que les États-Unis sont aujourd'hui un tournant de leur histoire. Un tournant peut-être politique et sociétal, chargé de symboles. Des démocrates du Congrès se sont agenouillés hier pour observer 8 minutes 46 de silence en hommage au martyr de George Floyd. Le genou à terre, symbole contre la discrimination raciale et les violences policières. C'est un article à retrouver sur franceculture.fr.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Après avoir débloqué des milliards pour le tourisme et l'automobile, le gouvernement vole aujourd'hui au secours de l'aéronautique.
Un secteur qui a été lui aussi paralysé par le confinement, par la crise, secteur qui redécolle très timidement. Si les compagnies aériennes sont très touchées, les entreprises de pointe de sous-traitance du secteur le sont également. Alors le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pourrait mettre jusqu'à 10 milliards d'euros sur la table pour sauver la filière, qui connaissait d'ailleurs jusqu'à présent une croissance insolente de 5% par an, comme le rappelle Xavier Titelman, expert aéronautique au cabinet SGI Consulting.
Toute l'aéronautique s'était construite avec une vision de très long terme, en se disant, voilà, on va avoir une moyenne de croissance économique de la Terre qui va être de 2,5%, donc l'aviation, ce sera 5%. Et c'est ça qui faisait qu'on avait un trafic qui doublait tous les 15 à 17 ans. Mais c'était quelque chose qui était historiquement valable, puisque depuis les années 50, on avait tous les 15 ans un trafic qui doublait. Et là, on était arrivé à 4,5 milliards de passagers l'année dernière, et on avait l'objectif d'atteindre les 9 milliards de passagers d'ici 2035. Mais il y a aussi peut-être une évolution même de la demande. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, pour qu'un professionnel aille signer un contrat, il fallait qu'il prenne son avion, qu'il fallait qu'il aille se déplacer, qu'il aille se rendre sur place. Maintenant, on a la signature électronique, on l'a vu avec le télétravail qui s'est développé, les conférences à distance qui se développent dans des proportions très importantes. Et on a également la honte de prendre l'avion qui se développe parce que les gens, aussi pour des raisons écologiques, cherchent à éviter certains déplacements qui pouvaient paraître anecdotiques et notamment les vacances. Et c'est ça qui fait que peut-être que cette crise, on n'en sortira qu'autour de 2030 pour l'aéronautique.
Xavier Tittelmann, expert aéronautique au cabinet SGI Consulting, il répondait à Kim Kasmi. L'aéronautique qui pourrait bénéficier du nouveau dispositif de chômage partiel, il doit être défini à partir de cette semaine lors de concertations avec les organisations syndicales et patronales. On y revient dans le journal de 7h30. La colère gronde comme tous les mardis dans les hôpitaux à l'appel de la CGT et du syndicat Sud en plein Ségur de la santé. Négociation avec les autorités. Parmi les motifs de mécontentement, tous les soignants n'auront pas droit à la prime Covid. C'est 1500 euros que le gouvernement leur avait pourtant promis, mimé pour récompenser un engagement exceptionnel. Or, des règles ont été édictées qui écartent de fait certains agents, ce que déplorent les syndicats Tarache Légal.
Nantes fait partie de la liste des 79 hôpitaux plutôt épargnés mais qui ont reçu des malades Covid d'autres régions. À ce titre, l'hôpital aurait pu verser la prime à tous, sauf que le gouvernement a modifié son décret, accuse Olivier Thérien, responsable CGT.
Pour en limiter le coût, le ministère donc a envoyé une instruction au chef d'établissement en lui demandant de ne donner 1500 euros qu'à 40% de l'effectif.
Près de 6000 agents toucheront au mieux 500 euros, parfois rien. Exemple, ces administratifs qui ont pourtant rappelé beaucoup de malades.
Par exemple, des professions comme les secrétaires médicales qui, elles, ont participé à la déprogrammation de l'activité et participent très activement aujourd'hui à la reprogrammation de l'activité, donc ça a occasionné une surcharge de travail, eh bien, ces professionnels seront exclus des 1500 euros.
Et puis, il y a les agents qu'on a renvoyés chez eux en raison d'une activité réduite dans certains secteurs. Si l'absence a duré plus de 15 jours, ils sont pénalisés. À l'APHP à Paris, la prime sera plus largement versée. Mais là aussi, certains sont restés chez eux alors qu'on aurait pu en avoir besoin en renfort. Et ces autorisations d'absence sont aussi synonymes d'une moindre prime, s'indigne Aïcha Hakoun, infirmière et élue CGT.
Le personnel, il aurait pu venir travailler si on lui avait donné le matériel qu'il fallait pour les mettre en sécurité, ce qui n'a pas été le cas. La conséquence, c'est que de par une décision administrative, de par un manque de matériel, on pénalise des agents qui, encore une fois, n'ont pas été concertés. On les a mis en fait accomplis.
D'où la colère des syndicats qui estiment que tous les personnels se sont mobilisés ou ont subi la crise sanitaire et qu'il faut les récompenser.
Quelques mots du temps de ce mardi 9 juin marqué par des éclaircies au nord-ouest, davantage de nuages et d'averses dans le reste du pays. Au meilleur de la journée, il fera entre 15 et 22 degrés de l'intérieur des terres vers l'océan jusqu'à 26 près de la Méditerranée, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Dans quelques instants, la question du jour, se dirige-t-on vers la fin des industries pétrolières, 7h12.